Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Je m'appelle François Doyon-Larochelle et je suis gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 20, dans l'actualité, les résultats d'investissement RPC. Ensuite, l'inflation est de retour, quel impact sur votre portefeuille? Troisièmement, le bon conseil du jour, rééquilibrer votre portefeuille rigoureusement. Et finalement, nous répondons à la question d'un auditeur qui se demande « J'ai des placements à perte dans mon portefeuille, devrais-je les réaliser maintenant ou attendre? » Bonne écoute! Bon, je vous présente comme à l'habitude mes bien chers confrères James Parkin. James, tu es gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Salut James!
Bonjour François!
Et Raymond Carzero. Raymond, tu es notre directeur de la recherche. Salut Raymond.
Salut François.
Bon, ben c'est parti. Messieurs, comme à l'habitude, on va commencer avec l'actualité. Et Raymond, tu veux nous entretenir sur les résultats d'investissement RPC?
Oui, donc investissement RPC, c'est le bras d'investissement du régime de pension du Canada, donc un peu le pendant de la caisse de dépôt pour les pensions. Pour le reste du Canada, en fin de compte. Donc, les résultats sont sortis depuis quelques temps, mais je pensais que c'était important qu'on le couvre sur le balado. Notamment, je voulais mentionner également un article du Globe and Mail qui est écrit par Andrew Coyne, qui est un peu sur leur cas depuis quelques années, critique assez sévère là, de investissement RPC. Il mentionne que depuis 15 ans, le RPC a adopté une gestion active. Hein. Avant ça, c'était la gestion passive. Et depuis qu'ils ont adopté la gestion active, ils ont à peine surpassé leur indice de référence de 1,5%. Donc, je vais vous donner les chiffres un petit peu. On va se le dire franchement, là, l'année 2020-2021, leur fin d'exercice au 31 mars, en absolu, le rendement est très bon, mais en relatif, c'est atroce. Là. Ils ont sous-performé leur indice de 10%. Donc, ils ont eu un rendement de 20,5% contre 30,5% pour le. J'arrondis un petit peu là, pour l'indice de référence. Moins 10% la différence. Sur 5 ans, c'est mieux. Ils ont sous-performé de 20 points de base. Donc, eux, ils ont un rendement de 11%, l'indice de référence 11,2%. Et finalement, sur 10 ans, par contre, ils arrivent encore à surpasser leur indice de référence de 0,6% avec un rendement de 10,8% contre 10,2%. Juste pour vous donner une information importante, si leur indice de référence, c'est 85% action mondiale et 15% obligation gouvernementale.
Quand même assez agressif, ça, comme allocation.
Oui, tout à fait. Là, ils sont l'accélérateur au plancher, là, on peut dire. Selon Coyne, les gains de la gestion passive ont été presque entièrement effacés par les frais de gestion parce que ça coûte très, très cher, particulièrement à investissement RPC, la gestion active, je vais y venir, mais juste en dollars, là, pour commencer, en 2020-21, 4,4 milliards pour l'exercice financier de frais de gestion et d'exploitation au total, les frais de transaction, les commissions aux courtiers, tralala, tout ça. J'ai calculé qu'est-ce que ça fait en pourcentage de l'actif. Donc, si on fait l'actif moyen sur l'année, ça fait 98 points de base, presque 1%. Ça ressemble à des frais de fonds communs de placement, ça. Et même on en connaît qui facturent pas mal moins cher que ça.
Oui, pour certains de nos clients, même ça ressemble aux frais de gestion là, de nos clients avec les frais pour les FNB. Là. Donc, c'est quand même assez élevé pour un fonds de pension de cette grandeur-là. Là.
Ben oui, ils ont 500 milliards, presque 500 milliards sous gestion, imagine-toi. Ça a coûté... Oui, oui, James.
Raymond, comme on dirait en bon québécois, là, c'est des bidous, ça, 4,4 milliards de frais de gestion.
Oui, mais attends une minute, là, je m'en viens avec mes gros sabots. Selon Coyne, depuis 2006, les frais d'exploitation et de gestion ont totalisé 30 milliards de dollars. Ça inclut une grande partie d'honoraires de gestion payés à des sociétés de placement externes. Firmes de hedge fund, des firmes qui font des fonds de placement privé, etc. Juste pour vous redonner un petit vue plus à 40 000 pieds de ce que c'est que l'investissement RPC. Donc, on parle seulement le bras de gestion de placement. 2000 employés, 6 services de placement qui gèrent 23 stratégies de placement et 9 bureaux à travers le monde. Donc, selon Investissement RPC, toujours, selon leurs calculs, ils arrivent à une valeur ajoutée depuis 15 ans, une valeur ajoutée fournie par la gestion active de 28 milliards de dollars. Ça, on va y revenir. Donc, ça, c'est les faits. Je vais vous donner un petit peu mes observations ici. Donc, moi, je lis religieusement ce rapport annuel-là à chaque année. Puis, je trouve ça un peu irritant à chaque année parce que c'est vraiment plus de 190 pages, mais c'est pas organisé pour être lisible. L'information n'est pas facilement accessible. Moi, j'aimerais ça qu'ils réduisent ça substantiellement puis qu'ils fournissent l'information en allant droit au but. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il n'y a pas là-dedans. On n'a pas le rendement sur plusieurs personnes, un an, cinq ans, dix ans par rapport à l'indice de référence. Il faut vraiment fouiller pour trouver l'information puis regrouper l'information soi-même. Même chose pour les frais de gestion. Il y a deux pages, mais c'est vraiment la toute fin du document et il n'y a pas vraiment de tableau qui synthétise tout ça. Donc, le 98 points de base, c'est moi qui l'ai calculé. Essentiellement, okay. Il n'est pas fourni dans le rapport annuel.
Est-ce que Raymond, je m'excuse, mais est-ce que tu penses qu'il essaie de cacher ces informations-là ou c'est juste que c'est pratique courante là, pour...
Ben, j'allais y venir, je vais brûler un peu mon scoop. Dans mes grandes conclusions, c'est que 1%, c'est vrai, 98 points de base, c'est vraiment trop cher. La Caisse de dépôt a un rapport de annuel qui est même encore plus long, donc plus de 200 pages, mais en feuilletant, on trouve rapidement là, la section sur les frais de gestion et c'est exprimé en pourcentage. Moi, c'est pas dans ma nature là, de faire des procès d'intention, mais je souhaiterais que l'information soit beaucoup mieux transmise dans le rapport de CPP. Je vais m'en tenir à ça.
Ben, Raymond, je t'appuie avec ces propos-là parce qu'on a maintenant et on a eu comme invité l'automne dernier Sébastien Bertermier, le professeur à McGill de finance, et il a fait l'étude et comme quoi les fonds de pension canadiens, c'était des leaders à l'échelle mondiale pour la qualité des rendements, la qualité de la façon qu'ils ont structuré leurs opérations. Fait que je pense que c'est de bon augure, tes propos, que ces grandes institutions-là se publient des résultats pour qu'on puisse les comparer l'un à l'autre. C'est bon, ça serait bon pour chacune de ces institutions. Cette compétition ferait en sorte qu'on aurait moins de risques, on aurait des crises comme on a eu en Alberta l'année dernière où le gestionnaire du fonds AIMCO a fait des grosses gaffes dans sa gestion de risque.
Oui, avec la gestion, je pense que c'était des stratégies d'options plus risquées que ce qu'avait compris effectivement. Tout à fait. Ben, la communication de l'information, c'est fondamental. Puis là, on parle pas de monnaie de singe. Là, on parle de 500 milliards de dollars, un demi-billion de dollars. C'est colossal là, comme truc. Donc, ça, c'était ma première observation. Ensuite, moi, personnellement, j'aurais aimé ça qu'ils fournissent la méthode de calcul pour arriver à 28 milliards de valeur ajoutée sur 15 ans par la gestion active. J'ai pas les chiffres sur 15 ans. Le rapport annuel parle de 10 ans, mais sur 10 ans, 60 points de base, même en le composant sur un actif total de 500 milliards, j'arrive pas du tout à 28 milliards. J'arrive à un peu plus qu'un dixième de ça. Donc, j'aimerais vraiment voir le calcul. Moi, juste en faisant un petit calcul en arrière de l'enveloppe, j'arrive à un résultat qui est complètement différent. Donc ça, c'était ma deuxième remarque. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, 98 points de base, c'est vraiment trop cher. Je mentionnais la Caisse de dépôt, l'information est bien divulguée et la Caisse de dépôt, les frais de gestion et d'exploitation totalisent 23 points de base. Donc c'est trois quarts moins cher que CPP Investissement. Excusez-moi, que Investissement RPC en français. Par contre, j'aimerais ça souligner leur courage puis le fait qu'ils ont quand même le courage de publier un indice de référence hyper simple. Donc, c'est vraiment 85% un indice fourni par Standard & Poor's d'Action Mondiale, 15% un indice d'obligation gouvernementale. C'est hyper simple. Donc, ils continuent de fournir les outils pour se comparer leur rendement de leur stratégie hyper sophistiquée, complexe, avec un instrument qui serait simple et qui pourrait facilement être implantable. Donc, je trouve ça courageux. Par contre, la manière que l'information est transmise, moi, je ne crois pas que c'est idéal.
James?
Oui, effectivement. Moi, quand je lis tout ça, j'ai plusieurs choses qui me passent dans l'esprit. C'est quand on a démarré la firme, un des décisions qu'on a prises, c'est que chaque client aurait une politique de placement puis chaque client aurait un rapport de performance. Et ces rapports de performance-là, ça a créé une discipline qu'il fallait générer des résultats, fallait exécuter de façon efficace. Il fallait respecter les principes de la finance académique où l'évidence est que c'est ça qui va générer des résultats. Et c'est ce qui nous a mené vers la gestion passive qu'on a adoptée en 2003. À toute fin pratique, l'RPC faisait de la gestion passive, a quitté ça et est allé vers la gestion active. Et on voit que ça coûte des frais énormes. En passant, un des journalistes qu'on suit de très près, américain, dans le Wall Street Journal, qui s'appelle Jason Zweig, et il écrit dans sa chronique « The Intelligent Investor » récemment, le 18 juin, « Wishful Thinking in a World Without Yield ». Puis il parlait dans son article sur ce qui se passe au niveau des fonds de pension institutionnels américains. Et il citait une étude faite par un consultant américain, Richard Innes, qui est un expert reconnu depuis les débuts des années 70. Et c'est la même histoire où on dépense une fortune sur des frais de gestion de gestionnaires alternatifs, puis les résultats ne sont pas au rendez-vous contre un rapport. Les rendements ne sont pas au rendez-vous par rapport à un indice simple. Nous, on a publié en novembre notre livret électronique sur les fonds de dotation. Ça datait la même histoire. On va mettre à jour ce livret électronique-là dans la prochaine année. Mais les résultats depuis, c'est la même histoire. On ne bat pas des indices simples. Donc, c'est pas juste le RPC qui est dans une mauvaise track au niveau de dépenser beaucoup de frais de gestion sur des gestionnaires alternatifs.
Excellent. Raymond, autre chose à ajouter?
Non, mais à part de ça, c'est certain que la gestion active, puis les placements privés, puis tous les instruments de placement ultra sophistiqués, ça fait partie de la culture en gestion institutionnelle. Donc, c'est un obstacle qui est difficile à surmonter, mais c'est la vie. C'est comme ça. Pour l'instant, ça ne bouge pas.
Merci, messieurs. Comme deuxième sujet, un sujet qui aurait pu bien être notre sujet d'actualité parce qu'on en parle partout dans les journaux, et c'est l'inflation. Et James, tu veux nous parler de l'inflation et de son impact sur les portefeuilles. À toi, James.
Oui, merci François. Écoute, je me suis porté volontaire pour parler de ce sujet-là. Et dans mes lectures que j'ai faites pour me préparer, je regrettais un peu parce que c'était comme tomber dans un trou noir de lecture, ça n'avait pas de fin. En fait, l'inflation, c'est pas un sujet qui a fait les manchettes depuis très, très longtemps. Et moi, quand j'étais très jeune, quand je faisais mes études universitaires, dans les années 80, l'inflation, c'était un phénomène très récent. Et les politiques monétaires pour contrer ça, c'était ce qu'on étudiait en avant-plan au niveau de la macroéconomie. Et donc, c'est intéressant de voir que ça revient comme sujet d'actualité. Premièrement, pourquoi? Les chiffres récents de l'inflation ont vraiment ravivé les craintes que les politiques monétaires et budgétaires adoptées pendant la pandémie aient un effet permanent sur l'inflation et que ça risque de persister sur une longue période. Puis ça, c'est très important parce que si on regarde l'histoire économique depuis les 100 quelques dernières années, c'est une question de persistance. On peut avoir, en anglais, on utilise le terme « spike », c'est pas une percée, mais une hausse soudaine, et rapide et courte de l'inflation. Ça, il y en a déjà eu, mais des longues périodes, vraiment, c'est dans, au niveau économique, c'est les expectatives d'inflation. Fait que si tout le monde s'attend à ce que tout va monter, ben moi, je vais me faire payer plus, puis je vais demander un prix plus élevé à mes clients. Donc, ça devient très, très pernicieux, l'inflation. Fait que, mais de façon pratico-pratique, c'est quoi les statistiques récentes? Bien, ceux qu'on a, c'est pour la fin de mai 2021. Au Canada, l'inflation était de 3,6% et de 5% aux États-Unis. Et ça, c'est ce qu'on appelle « headline inflation ». Puis là, le « core inflation », le taux pour les éléments de base, c'était 2,8 au Canada puis 3,8. Ceci dit, il faut faire attention, on ne peut pas toujours exactement comparer l'inflation américaine et canadienne parce que les mesures pour faire les calculs sont différentes. Mais ceci dit, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus hauts que ce qu'on a vu dans les 10 dernières années. Alors, ça fait peur. Et oui, François?
Ce ne serait pas aussi dû au point de référence parce que l'an passé, à pareille date, là, je me suis amusé à aller voir les taux d'inflation en mai 2020. Puis on parlait de déflation ici dans les manchettes au Canada parce qu'on était à moins 0,4. Puis aux États-Unis, on avait à peine un peu d'inflation à 0,1%. Là, donc,
si tu fais un très bon point, François, c'est exactement ça. On a des problèmes dans l'approvisionnement, on a des problèmes où, dans certains secteurs, on a beaucoup de demandes très rapides avec l'arrivée des vaccins et des reprises économiques. Donc, c'est les statistiques économiques en ce moment sont très, très volatiles. Fait que les comparables, c'est très, très dangereux. Puis, une personne qu'on cite souvent pour les mauvais conseils, David Rosenberg, a écrit des propos récents qui sont très pertinents, puis au fait, lui, c'est son expertise, l'économique, puis je crois qu'il a raison. Il dit on a une des pires périodes de volatilité dans les statistiques économiques, puis il faut vraiment se méfier de ça. Et lui, ses propos, on en parlera tantôt, il prévoit plus de la déflation qu'à venir une fois qu'on sort de ce phénomène court terme. Et il faut faire vraiment attention. Puis on pense à l'inflation, mais ça vient d'où? T'sais, on voit le prix du bois d'œuvre qui a un prix de fou. On voit le prix du pétrole qui a augmenté. Mais ça, c'est des reprises court terme. Quand on voit les gens qui dépensent comme des fous à faire des rénovations, acheter des maisons, faire construire des nouveaux logements, on voit que ça, c'est une dépense qui n'est pas récurrente. Je prends l'exemple des services. On peut penser, exemple, nos Canadiens font bien, ils sont dans les séries finales de la Coupe Stanley, mais on voit le gérant Marc Bergerin, ça a l'air qu'il n'y a pas une coupe de cheveux depuis très longtemps, mais effectivement, on ne rattrape pas les coupes de cheveux qu'on a manquées. Fait qu'il y a certains services, c'est perdu. Les repas qui n'ont pas été mangés au resto, c'est perdu à jamais au niveau d'impact économique. Fait que ça reste à voir. Mais c'est tu as parfaitement raison, François, c'est pas persistant. Fait que revenons à nos auditeurs, puis donc ce qu'on veut savoir, c'est comment les investisseurs devraient-ils penser à l'inflation et quels seraient les impacts potentiels sur leur portefeuille de placement. Fait que revenons à la base. On dit toujours, on n'essaie pas de prévoir l'avenir, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se protéger, on doit se diversifier pour être prêt à plusieurs éventualités. L'inflation, c'est encore pire que d'essayer de prédire des taux d'intérêt ou de prédire la direction des actions en bourse. L'inflation, il y a tellement de variables là-dedans que c'est presque impossible à prévoir. Revenons sur les propos tenus par les leaders des banques centrales, que ce soit la Fed aux États-Unis, la Banque du Canada. Ils sont en synchronisme dans la mesure qu'ils disent qu'ils ne sont pas inquiets de l'inflation. Ils pensent plutôt qu'il y a encore des secteurs importants de l'économie qui n'ont pas eu de reprise encore. Et de façon ponctuelle le stimulus fiscal des dépenses gouvernementales pour supporter les Canadiens et les Américains pendant cette crise. Ce stimulus va s'arrêter fort probablement à l'automne. Fait qu'il faut faire vraiment attention, selon eux. De nombreux économistes, comme je vous ai dit, je vais faire un paquet de lectures, puis eux autres, ils disent qu'il faut regarder toujours le long terme et les tendances séculaires de la démographie et de le niveau d'endettement élevé vont agir pour contrôler l'inflation post-pandémie. Donc, le consensus semble que, comme tu dis, François, c'est des perturbations court terme qui sont plus dues à l'effet récent de économique et les problèmes de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et on dit bien en français la demande refoulée, c'est pent-up demand. On attend la pandémie, mais quant à moi, je parle à mon réseau d'amis, sur quoi on ne dépense pas, c'est vacances. Pour moi, ça va être dans le domaine des vacances que ça va changer. Mais si on se met à dépenser là-dessus, on ne pourra pas dépenser sur des Renault, une nouvelle voiture ou d'autres choses de ce genre-là. Fait que l'autre point qui est important pour nos auditeurs, c'est comment est-ce que le marché obligataire réagit. Fait qu'on pense toujours, les manchettes, c'est les actions, la bourse, mais c'est vraiment le marché obligataire qui joue un rôle très, très important. Il est trois fois plus gros en termes économiques que le marché des actions. Et présentement, il n'a pas peur de l'inflation du tout. Puis si on prend l'obligation de référence 10 ans au Canada, le taux a beaucoup monté cette année. Donc, au Canada, il est passé de 0,677% à 1,43%. Aux États-Unis, 0,916% à 1,525% en date du 25 juin. Mais ceci dit, les taux étaient 0,10% à 0,25% plus élevés au mois de mai. Donc, on voit que c'est l'inverse. Les taux se mettent un petit peu à baisser. Fait qu'il y a des billions qui se transigent dans les marchés des obligations. Et ce que ça nous dit, c'est que non, nous, on n'a pas peur de l'inflation. Quand on regarde ensuite le marché des actions, indice précurseur, on annonce hebdomadairement qu'on atteint des sommets aux États-Unis récemment, le Nasdaq, le Standard & Poor's récemment, les indices canadiens. Fait que pour moi, le marché, lui, il dit, écoute, nous, on voit de la croissance économique qui s'en vient. Ce qui serait dangereux, par contre, c'est ce qu'on appelait, pour emprunter le terme en anglais, encore stagflation, c'est-à-dire on a une stagnation économique avec l'inflation. Et ça, c'est un phénomène qui a été prévalent dans les années 70 et 80, où on n'avait pas de croissance économique, puis on avait de l'inflation. Fait que ça serait pernicieux. Puis je pense, Raymond, tu vas en parler tantôt là, sur ce point-là. Ensuite, pour nos auditeurs, c'est quoi l'impact pour la planification financière? Fait qu'on sait, nous, quand on fait des projections financières pour l'accumulation des actifs à long terme, même une inflation à 1,5-2%, ça gruge le pouvoir d'achat à long terme et il faut faire vraiment attention. Fait qu'ici, on revient à la notion d'avoir un portefeuille qui est robuste, qui va prévoir aux situations non prévues. Et donc, l'inflation, ça pourrait que ça revienne en force, mais il n'y a personne qui a la boule de cristal. Fait que présentement, nos portefeuilles sont structurés en étant à court terme de qualité. Si les taux montaient, s'il y a un lien avec les taux et l'inflation, bien, on va pouvoir s'ajuster en conséquence. On a une allocation d'actifs en actions qui va nous donner de la croissance. La croissance des valeurs des actions va aussi nous aider à contrer les effets de l'inflation. Donc, le message aux auditeurs, c'est de rester discipliné, rééquilibrer régulièrement et respecter votre discipline puis votre tolérance au risque.
Oui, je pense que ce n'est pas le temps là, d'aller puis de vendre les actions parce qu'il y a une période d'inflation soutenue qui pourrait être pointée à l'horizon. Là. Les rendements réels, oui, risquent d'être plus bas, là, mais c'est quand même mieux d'être dans les actions que de vendre puis de rester en cash parce que là, c'est sûr qu'on va perdre de l'argent si on reste en cash. De plus, dans nos portefeuilles, on tend à avoir des échéances obligataires qui sont courtes. Donc, s'il y a une montée des taux d'intérêt avec les échéances dans nos portefeuilles de nos obligations, bien, on va profiter des taux d'intérêt qui vont être plus hauts. Raymond, avais-tu des choses à partager avec nous à ce sujet?
Oui, en fait, une des lectures importantes pour moi pour garder en vue la perspective à long terme, c'est le rapport qui est publié annuellement par les trois professeurs du London Business School, Dimson, Marsh et Stoughton. Ça s'appelle le Global Investment Yearbook. Puis de façon intéressante, ça a été publié en février dernier en février de chaque année. Et cette année, on avait une section spéciale sur l'inflation, donc ils étaient un petit peu en avant de leur temps. Et ils mentionnaient, ils ont fait une analyse des rendements sur les 120 dernières années des différents marchés mondiaux. Et comment sont les rendements des actions et des obligations à long terme selon des scénarios, différents scénarios d'inflation. Donc, des scénarios de déflation, des scénarios d'inflation modérée, puis des scénarios d'inflation élevée. Puis c'est seulement dans les scénarios d'inflation très élevés, donc le 20% où le taux d'inflation est le plus élevé, ou ce que, à ce moment-là, oui, effectivement, là, on a des rendements négatifs, des rendements réels négatifs sur les actions et les obligations. Et ce qui est le plus important à noter, c'est que c'est les obligations à long terme qui sont le plus durement frappées, pas les actions. Les actions, historiquement, ont un rendement négatif lors des pires périodes d'inflation, mais beaucoup moindre, l'impact est beaucoup moindre que pour les obligations à long terme. Donc, est-ce qu'on est rendu là? Je pense pas. Je pense qu'on est juste en ce moment dans un sursaut d'inflation. Comme James l'a mentionné, je corrobore, les marchés obligataires ont réagi très calmement à la publication des chiffres. C'est vraiment les deux derniers chiffres d'inflation aux États-Unis et au Canada qui ont été plus élevés. Le marché obligataire a réagi très calmement. Puis les directeurs des banques centrales maintiennent cette même opinion-là, c'est qu'à l'heure actuelle, ils veulent continuer d'encourager la reprise pour l'instant plutôt que de tenter de lutter contre l'inflation. Mais c'est sûr que c'est un chiffre qui peut faire peur, là, 5 % d'inflation aux États-Unis. C'est un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis plus d'une décennie. Donc, mais il semblerait que ça va être seulement un rebond à court terme. Puis de là à se rendre à des taux d'inflation ou même des scénarios avec de la stagflation, comme tu mentionnais, James, à la mode des années 1970, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Donc, moi, je ne suis pas du tout en panique. Par contre, pour ceux qui veulent se protéger contre l'inflation, d'avoir des obligations plutôt à court et moyen terme que des obligations à long terme, c'est un moyen pas mal efficace. Puis je mentionnerais aussi au niveau des actions, aussi un pop d'inflation au Canada ou aux États-Unis, mais le fait d'avoir un portefeuille qui est diversifié mondialement, il n'y aura peut-être pas les mêmes problèmes d'inflation en Europe, au Japon. C'est qu'au Japon, il y a même un problème de déflation dont ils arrivent difficilement à se débarrasser. Donc, en gros, je trouve que le papier annuel là, de DMS, le Global Investment Yearbook, est pas mal, corrobore pas mal là, vos propos, François et James.
Merci, Raymond. Merci, James. Donc, notre prochain sujet, le bon conseil du jour, rééquilibrer votre portefeuille rigoureusement. Raymond, c'est à toi.
Oui, c'est un article du Wall Street Journal. En fait, l'article titré « Rééquilibrer est une bonne habitude pour les retraités ». L'article cite de nombreux experts qui font autorité. Je vais vous en donner quelques-uns. Il cite William Bernstein, un de mes auteurs préférés, qui a écrit « The Four Pillars of Investing », mais aussi plusieurs autres bons livres sur le placement avec la gestion passive. Il cite également Christine Benz et David Blanchett de Morningstar, ainsi que Maria Bruno de Vanguard. Ça, c'est toutes des personnes qui sont réputées pas mal connaître leur affaire, puis avoir une vision à long terme des choses. Donc, tous ces intervenants soutiennent que le rééquilibrage, c'est la meilleure pratique pour tous les investisseurs, mais plus particulièrement pour les retraités, parce que les retraités sont plus vulnérables aux marchés baissiers, parce qu'ils retirent de leur portefeuille, puis ils ont moins la capacité de se remettre des pertes importantes. Moi, j'ai fait des recherches sur ce sujet-là, le rééquilibrage. J'ai publié un papier il y a quelques années. Et donc, dans l'analyse que je présentais dans ce papier-là, je regardais le rééquilibrage. Donc, je faisais une comparaison entre un portefeuille qui n'est pas rééquilibré et puis le même portefeuille rééquilibré selon un paquet de méthodes différentes. Je pense que j'avais 10 méthodes différentes, choisies un peu au hasard. Je n'ai pas essayé de trouver une méthode pour optimiser le rendement du portefeuille. Fait que je l'ai fait non seulement d'un point de vue d'un investisseur canadien, mais je l'ai fait aussi du point de vue d'un investisseur américain, un investisseur britannique, puis un investisseur japonais. Et puis, dans l'immense majorité des cas, le portefeuille rééquilibré donnait un rendement légèrement supérieur, là, autour d'un 0,5%, des fois un petit peu moins, dépendant des scénarios, là. Autour d'un 0,5% de plus de rendement, ce qui est quand même assez étonnant, là, parce qu'on contient notre allocation en actions. Puis dans tout, absolument tous les scénarios, bien entendu, là, la volatilité du portefeuille était moins grande pour le portefeuille. Les portefeuilles rééquilibrés par rapport aux portefeuilles non rééquilibrés. Donc, cette étude-là portait sur des données des années 1980 à 2014. Donc, on a quand même une bonne variété d'environnement et de cycles économiques là-dedans. Donc, pour résumer un peu tout ça, pour moi, c'est un excellent conseil. Rééquilibrer permet de réduire le risque d'épuiser le capital pour les retraités, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on est retraité, on retire du portefeuille. Ça veut dire que quand le marché plonge, puis qu'en plus, on retire de l'argent, c'est comme si on creusait son trou. Donc, c'est évident que oui, on veut avoir un certain niveau d'allocation en actions, mais on ne veut pas excéder ce niveau-là non plus. On veut rester proche de la cible. Donc, essentiellement, oui, c'est une très bonne pratique pour les retraités. Puis, en termes de rendement, d'après mes recherches, moi, ça ne coûte pas grand-chose, là. Puis même, des fois, ça peut ajouter un petit peu de rendement de rééquilibrer le portefeuille.
Oui, bien nous, c'est une pratique courante. Là. On veut rééquilibrer les portefeuilles dès qu'on a des opportunités, vendre les actions quand on a des marchés haussiers comme on a en ce moment, puis remettre dans les obligations et vice-versa. Quand il y a des marchés baissiers, c'est plus difficile, mais de vendre tes obligations puis de racheter des actions. Mais 0,5% de rendement ajouté, là, si on a un portefeuille d'un million, c'est quand même 5 000 $ par année. Donc, pour certains, c'est considérable. C'est un mois de retrait, probablement. Là. Donc, c'est quand même des sous qu'on met de côté. Là. James, as-tu des commentaires supplémentaires là-dessus?
Oui, en fait, j'ai trois commentaires, François. C'est, premièrement, c'est que dans notre pratique, comme tu sais, on a la règle du 5%. Dans nos politiques écrites de placement, on a la règle du 10%. C'est-à-dire que en pratique, quand on voit qu'un client qui est supposé d'avoir 60 ou 70% en actions dans son portefeuille puis est rendu à 65 ou 75, ben, on prend l'occasion de vendre, faire du remblai, comme tu as dit, dans le panier sécure des obligations et revenir à sa politique long terme. C'est sûr que les marchés peuvent augmenter beaucoup plus rapidement qu'on s'y attend, fait qu'on laisse le momentum courir. C'est pour ça que notre politique nous donne une marge de manœuvre jusqu'à 10, mais au niveau de discipline, vraiment, au niveau d'exécution, on regarde l'indice du plus 5%. Donc ça peut être utile pour nos auditeurs. Le deuxième point, c'est que pour ceux qui suivent nos conseils et qui ont des portefeuilles très diversifiés avec des fonds étrangers en bourse, broad market, c'est-à-dire très large, il y a très, très peu de distribution de gains. Et on sait qu'au niveau de la fiscalité canadienne, avoir des fonds étrangers en bourse qui sont des fonds, exemple, américains, s'ils distribuent des gains, c'est très, très, très néfaste fiscalement parce que c'est imposé à 100% comme un revenu étranger. Le dernier point, c'est que nos clients qui sont avec nous depuis longue date, de rebalancement pour des pertes en fin d'année, etc., c'est très rare parce qu'ils ont effectivement tous des gains en capital non réalisés. Fait que pour nous, c'est une question d'optimiser la fiscalité pour préemptivement déclarer des gains. Fait que les rebalancements, il faut regarder l'aspect fiscal, où sont nos avoirs, sont dans notre compte CELI, sont dans nos comptes taxables, nos comptes de compagnie de gestion de placement ou dans les comptes enregistrés, les RIR, les FER, etc. Fait qu'il y a une optimisation fiscale à faire dans tout ça.
Excellent. Merci, James. Merci, Raymond. Et finalement, nous répondons à la question d'un auditeur. Et la question est la suivante. J'ai des placements à perte dans mon portefeuille. Devrais-je les réaliser maintenant ou attendre? D'abord, j'aimerais remercier notre auditeur pour la question. C'est vraiment apprécié. Donc, pour y répondre, je pense qu'il est vrai, il y a beaucoup d'investisseurs et de conseillers qui ne se penchent pas assez sur la question de vendre des titres afin de générer des pertes en capital avant la fin de l'année. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce qu'ils détestent penser aux impôts, tout comme moi. Mais mieux encore, ils détestent essayer de décider quoi faire avec leur position perdante. C'est vrai, si j'étais un stock picker, là, je retarderais probablement le plus possible la douloureuse décision de capituler puis de liquider mes positions perdantes par crainte qu'elles ne remontent une fois que je les ai vendues. Cependant, comme je ne suis pas un stock picker, je n'ai pas cette décision difficile et émotionnelle à prendre. La construction de portefeuille avec des FNB de marché total élimine cette décision émotionnelle de l'équation parce qu'il est assez facile là, d'éviter la règle de perte apparente de l'ARC qui stipule que vous ne pouvez pas déduire une perte en capital si vous achetez un titre identique dans les 30 jours suivant la date de règlement de votre opération de vente. Ça signifie que vous ne pouvez pas acheter le titre que vous avez vendu 30 jours avant ou 30 jours après votre date de règlement. Vous pouvez toujours acheter les actions d'une entreprise similaire, une entreprise du même secteur, comme par exemple, si vous vendez la Banque Royale à perte et vous achetez la TD dans l'espoir qu'elle obtienne le même rendement avant de pouvoir acheter la Banque Royale, c'est un pari risqué. C'est un pari risqué avec les grandes banques canadiennes. Imaginez maintenant avec les actions de plus petites compagnies qui œuvrent dans un secteur qui est très, très spécifique. Avec les FNB, il est facile d'établir là, à l'avance vos paires de vente à perte fiscale et d'éviter la règle de perte apparente de l'ARC. Vous pouvez sélectionner là, des FNB qui répliquent un indice qui est différent, mais un indice suffisamment similaire pour que les caractéristiques de risque puis de rendement de votre portefeuille restent pratiquement les mêmes. Là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de différence entre le risque et le rendement, mais en sélectionnant soigneusement vos paires, ce différentiel de risque-rendement devrait être minime et vous devriez être aussi à l'aise de posséder l'un ou l'autre de ces titres-là dans votre portefeuille pour le long terme. Il est important d'avoir les bonnes paires de FNB, car si votre FNB de remplacement augmente de prix après l'avoir acheté, vous voudrez peut-être le garder indéfiniment dans votre portefeuille au lieu de générer un gain afin de revenir à votre position d'origine quand les 30 jours là, auront passé. Donc, pour revenir à la question de l'auditeur, je pense également que la cristallisation de pertes fiscales se fait souvent en fin d'année car les investisseurs et les conseillers connaissent avec certitude là, les gains en capital qui ont été déclenchés dans les comptes pendant l'année à cause du rééquilibrage qu'on a mentionné plus tôt, Raymond, dans ton point, et aussi à cause des distributions de gains en capital effectuées par les différents FNB puis les fonds communs de placement qui sont détenus dans le portefeuille. Cette certitude aide dans le processus de décision. Cependant, je pense que c'est une erreur de faire ça seulement qu'en fin de l'année, car il y a des opportunités de récolter des pertes qui se produisent tout au long de l'année quand il y a des replis de marché. Les pertes qui apparaissent au cours de l'année peuvent ne plus être là en novembre, décembre, quand vous voudriez générer des pertes. On a juste à penser à mars 2020, lors du pic de la crise de la COVID. Il y a beaucoup de pertes qui sont apparues dans les portefeuilles de clients et les pertes peuvent être facilement cristallisées. Cependant, à la fin de l'année, la plupart, sinon toutes, ces pertes-là avaient disparu parce que les marchés ont eu un fort rebond. Bien sûr, là, on va dire qu'il s'agissait d'un événement qui était historique, mais les replis de marché, ça arrive n'importe quand pendant l'année, puis ça n'a pas besoin d'être aussi dramatique pour que vous envisagiez cristalliser des pertes. Lorsque les pertes apparaissent dans votre portefeuille de FNB, c'est également l'occasion d'améliorer votre portefeuille, de remplacer certains FNB par des FNB qui sont moins dispendieux et plus efficaces fiscalement. Enfin, comme je l'ai déjà mentionné, je pense que l'investisseur devrait se concentrer sur les choses qu'il peut contrôler et la récolte des pertes en capital et l'optimisation des impôts font partie de ces choses-là. Des commentaires, messieurs?
Oui, François, écoute, c'est encore une fois un gros défi pour l'investisseur de gérer ses émotions au niveau de cristalliser les pertes en capital. Je devrais mentionner ce qui fait que beaucoup de gens font ça en fin d'année, c'est juste que il y a une échéance fiscale. Puis c'est cette échéance-là qui nous dit « Ah, il faut absolument agir et transiger ». Fait que c'est vraiment au niveau comportemental comprendre qu'il y a des opportunités qui nous sont offertes dans les marchés. Et ce n'est pas nécessairement en fin d'année qu'elles vont se présenter. Je mentionnais tantôt dans la section du rééquilibrage qu'il y avait au niveau de nos clients, pour beaucoup d'entre eux qui sont avec nous depuis longue date et qui sont très diversifiés, on a très peu de pertes à cristalliser. Donc, ça, c'est un point. Et de faire attention au niveau des fonds transgés en bourse qu'on achète, qui vont nous donner des surprises en fin d'année avec des gains distribués, même exemple s'il y a une baisse de la valeur économique de l'unité. Donc, c'est des surprises qu'on n'aime pas avoir. Fait que oui, il faut y penser tout au long de l'année. Il faut faire attention à optimiser la fiscalité entre les différents comptes. Fait qu'il faut faire attention de ne pas faire des gaffes sur le plan fiscal. Fait que c'est pas juste de réagir en fin d'année, « Oh, il faut absolument que j'agisse. » Je mentionnerais aussi que la fin de l'année fiscale d'une compagnie de gestion de portefeuille, ça va être l'année fiscale de la compagnie, ça ne sera pas nécessairement le 31 décembre. Mm-hmm. Mais aussi, des gens ont tendance à réagir parce que c'est une fin d'année fiscale de compagnie, là.
Excellent. Raymond, des choses à ajouter?
Non, c'est bien beau pour moi.
Excellent. Eh bien, c'est tout pour le 20e épisode de Sujet Capital. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. N'oubliez pas de vous joindre à nous lors du prochain épisode alors que nous passerons en revue les rendements de mi-année des classes d'actifs. James Parkin, Raymond Carzéro, merci d'avoir partagé votre expertise et votre sagesse.
Ça m'a fait plaisir, François.
Tout le plaisir est pour moi, François.
Merci beaucoup à notre réalisatrice Lise de la Planche pour sa précieuse collaboration. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la prochaine!